Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. La Russie, l'Iran et la Turquie peuvent-elles démêler le conflit syrien? Les chefs de la diplomatie des trois pays se sont rassemblés à Moscou. Réunion aux accents de victoire, c'est l'analyse de Jean-François Daguzan, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, nous l'entendrons. Au Yémen, ce qui s'apparente à une escalade de la violence, des dizaines de morts parmi les rangs insurgés après un raid, 8 missiles tirés en représailles par les rebelles vers l'Arabie Saoudite. Eva Jednak démêle un conflit parfois laissé dans l'angle mort des médias. À Gap, une marche de l'hospitalité organisée par un collectif. Son objectif est d'apporter son soutien aux migrants, après notamment l'action médiatisée de Génération Identitaire dans les Alpes. Damien Triomphe est sur place. Et puis nous feuilletterons une bande dessinée présidentielle. La première année d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, décrite d'un point de vue très original. Rendez-vous, restez avec nous, avec Lucas Caltritti en fin de journal. Et nous revenons d'abord sur cette réunion au sommet à Moscou aujourd'hui. La Russie, la Turquie et l'Iran dans la même pièce pour échanger sur le conflit syrien. Conflit dont ils tirent, il faut le dire, beaucoup de ficelles. Le but officiel, chercher à régler la situation en Syrie. Le but officieux, entériner la victoire. C'est en tout cas le décryptage que fait de cette rencontre Jean-François Daguzan. Il est le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Le sommet de Moscou sert d'une certaine manière à affirmer la victoire des trois principaux protagonistes de la question syrienne aujourd'hui, à savoir le régime de Bachar el-Assad, la Russie et l'Iran. Donc, d'une certaine manière, le sommet en tant que tel, c'est l'après-guerre civile et le partage du gâteau entre les différents protagonistes. Rappelons que l'Iran et le Hezbollah, avec lui, ont assuré sans doute l'essentiel de la moitié de la guerre. Et la Russie, évidemment, qui va défendre ses positions militaires et stratégiques en Syrie. Et à côté de ça, vous avez la Turquie, évidemment. La Turquie qui s'est associée à ses alliés traditionnels de l'OTAN pour l'approbation des frappes en représailles des attaques chimiques sur la Ghouta, mais qui, sur le terrain, agit en chassant les Kurdes des zones qu'elle considère devant rester sous son contrôle avec l'assentiment implicite des Russes. Donc, alliés d'un côté, agissant froidement et cyniquement de l'autre quand le besoin s'en fait sentir, parce que rappelons que pour la Turquie, la présence des forces kurdes de l'IPK considérée comme un bras du PKK en Syrie est inacceptable et qu'il s'agit donc de réduire la présence kurde à sa portion congrue.
Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il répondait à Benjamin Delisle et les combats entre les forces pro-régime et le groupe État islamique se sont intensifiés aujourd'hui dans le sud de Damas. C'est le 10e jour d'une offensive. Elle vise à déloger l'organisation de son ultime bastion dans la capitale. Plus de 30 civils Touaregs tués hier par des djihadistes présumés. Cela s'est passé dans le nord-est du Mali, à la frontière avec le Niger. Jeudi, une attaque similaire s'était produite dans la même région. Cela porte à plus de 40 le nombre de Touaregs tués en 24 heures. Dans le reste de l'actualité internationale, la situation préoccupante au Yémen. Il y a 10 jours, le numéro 2 des rebelles Houthis était abattu par la coalition menée par le Royaume saoudien. Hier, deux nouveaux raids qui ont fait des dizaines de morts parmi les rangs des insurgés, dont là aussi des têtes pensantes. Réplique immédiate, 8 missiles lancés par les rebelles en direction de l'Arabie saoudite. Eva Jednak, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, assiste-t-on à une escalade de la violence dans ce conflit yéménite?
Eh bien, cela fait déjà 6 mois que les rebelles houthis intensifient leurs tirs de missiles en direction de l'Arabie Saoudite. Au début du mois, Saleh Al-Samad, le chef du Conseil politique suprême, avait prévenu « 2018 sera l'année balistique par excellence ». Cette nouvelle salve de tirs, plus fournie que les précédentes, semble être une réponse à sa mort la semaine dernière dans un raid de la coalition. L'Arabie Saoudite, elle, profite de cette victoire pour continuer à affaiblir les rebelles, d'où les nouvelles frappes hier. Nouvelles frappes au cours desquelles des dizaines de combattants rebelles et de commandants ont été tués. Alors peut-on parler aujourd'hui d'une escalade dans ce conflit? Les experts en doutent, mais en tout cas une chose est sûre, on s'éloigne encore plus d'une issue diplomatique. Les Houthis, comme l'Arabie Saoudite, semblent bien décidés à privilégier une solution militaire au conflit.
Ouais, le conflit avec l'Arabie Saoudite qui s'enlise, Eva, il dure depuis maintenant 3 ans.
Oui, depuis mars 2015, le Royaume saoudien saoudien décide d'intervenir militairement au Yémen en soutien au président renversé par les rebelles houthis, rebelles soutenus par le grand ennemi de l'Arabie saoudite, l'Iran. Depuis, le pays est pris en otage dans une guerre par procuration entre Riyad d'un côté et Téhéran de l'autre. Et la situation sur place est catastrophique. Plus de 10 000 morts, 56 000 blessés, en grande majorité des civils. Des civils qui souffrent aussi de maladies. 1 million de personnes seraient touchées par le choléra et la famine menace aussi plus de la moitié de la population. Pour l'ONU, c'est la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale.
Merci beaucoup Eva Jednak en direct dans le studio pour toutes ces explications. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Pampelune, dans le nord de l'Espagne. Troisième jour d'un vaste mouvement de protestation dans ce pays contre un jugement controversé. Un jugement qui disculpe de viol 5 hommes ayant abusé d'une jeune femme. Des carmélites se sont même jointes aux critiques depuis leur couvent. C'est un retour au pays sous les vivats de ses partisans. L'ancienne présidente du Malawi est rentrée aujourd'hui après 4 années d'exil. Exil précipité par des accusations de corruption lors de la dernière élection présidentielle. Plusieurs centaines de militants l'ont accueillie à la sortie de son avion. Il portait la couleur orange de son parti, le Parti Populaire. Elle n'a pas donné d'indice sur ses ambitions politiques. Et puis cela devient une habitude pour la 2e année. Donald Trump a snobé les journalistes aujourd'hui. La presse était réunie à Washington pour le prestigieux dîner des correspondants de la Maison Blanche. Donald Trump était bien à Washington, oui, mais à Washington, dans le Michigan, à la rencontre de ses électeurs. Nous connaissons les relations compliquées qu'entretient le président avec certains médias qu'il accuse de relayer des fake news. En France, un rassemblement de soutien aux migrants organisé cet après-midi à Gap, dans les Hautes-Alpes, à l'appel de plusieurs associations. Elles réagissent en fait à l'opération menée la semaine dernière par le groupe Génération Identitaire contre l'immigration clandestine. En réponse, 200 personnes réunies sur l'esplanade de la paix. Damien Triomphe.
Soutien à Théo, Bastien et Eleonora, 2 Suisses, 1 Italienne, arrêtée dimanche à Montgenèvre après la manifestation spontanée, improvisée, décidée par les militants pro-migrants en réponse à l'action de Génération Identitaire la veille. Une marche de 18 km de Laclavé en Italie à Montgenèvre en France pour passer la frontière. Michel Rousseau de l'association Tous Migrants.
Pour le coup, eh ben, il faut remercier les forces de l'ordre d'avoir joué le jeu et d'avoir encadré très bien cette manifestation. Par contre, à la fin, ça s'est très mal passé, on ne comprend pas pourquoi. Les gens ont été interceptés sans que personne s'en rende compte. Puis bon, ces 3 personnes en tôle, pourquoi elles et pourquoi en tôle, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi.
Alors, pour éviter tout débordement ici à Gap, les 3 ont été transférés pour leur détention provisoire au Baumettes, en attendant la décision du juge des libertés jeudi. Evelyne, une sympathisante, ne comprend pas.
C'est inutile, quoi. C'est complètement débile. C'est des gens qui manifestaient pacifiquement et puis on les arrête comme ça parce qu'on veut faire des exemples. Ils ont forcé la frontière, il y en a d'autres qui l'ont forcé et qui n'ont pas été arrêtés. Hein. L'extrême droite est passée d'un côté, de l'autre. Ils arrêtent les gens, ils font n'importe quoi et eux, on les laisse faire.
Parce que ce qui ne passe pas pour les associations de soutien aux migrants, c'est que des membres de Génération Identitaire puissent toujours circuler librement sur la frontière franco-italienne.
Damien Triomphe, merci. Emmanuel Macron croquait quasiment 1 an après son arrivée à l'Élysée. Macron, l'an 1, pardon de vous le dire, c'est le nom de cette bande dessinée. À l'écriture, Zef, de greffe pour la couleur. Pour les dessins, c'est CAC qui officie tous les jours en une du journal L'Opinion. Lucas Caltritti, vous avez rencontré le dessinateur. La première année du quinquennat du président est vue des yeux de son labrador Nemo.
La couverture est une parodie du portrait officiel d'Emmanuel Macron. Le chien du président y prend un selfie avec son maître dans son bureau et il restera son fidèle compagnon tout au long de la bande dessinée. Il apporte une dimension comique, mais pas que, CAC, le dessinateur.
C'était amusant d'utiliser le chien un peu comme une sorte d'observateur apportant la sagesse populaire. C'est-à-dire qu'est-ce que si vous et moi nous étions à ce moment-là, à cette heure-là, dans ce bureau à l'Élysée quand cette décision est prise, qu'est-ce qu'on aurait commenté ? Plutôt que de le décrire comme un chien fidèle qui obéit aux ordres, qui, dès qu'on lui donne un sucre, lève la patte, on s'est dit c'est plus amusant évidemment d'aller à contrario de ce qu'on imagine des chiens, c'est-à-dire un fidèle et vous suivant partout, de lui redonner un esprit critique, voire à un moment donné un regard assez moqueur par rapport au chef de l'État.
Et Nemo a de quoi se moquer, notamment quand il assiste aux séances de boxe du Premier ministre et du Président. Les deux hommes ne sont pas des pointures, CAC fait la lecture de la page 17.
Alors si on prend l'exemple de Emmanuel Macron fait de la boxe c'est comme la politique dit-il, là il enchaîne des coups, il faut se servir de la gauche et de la droite, et enchaîner jab, cross, crochet du droit, décalé, uppercut du gauche dans les côtes flottantes. Donc là, son adversaire en prend plein la tête jusqu'ici, en fait. Et là, Emmanuel Macron, fier de lui, met les mains sur les hanches. Et voilà. Et je bonque, il se prend un énorme pain dans la gueule. Et son entraîneur, son coach, lui dit, règle de base, ne jamais baisser sa garde.
Le regard du Labrador permet d'avoir une proximité avec le pouvoir, mais sans jamais briser l'intimité du couple présidentiel. Le seul petit écart à cette volonté de Zef, Cac et de Greff, une page où Emmanuel Macron est nu sous sa douche.
Lucas Caltritti, merci beaucoup pour cette analyse. Un temps perturbé et orageux, ce sont les prévisions de Météo France pour demain, ciel chargé sur la moitié ouest du pays. Des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie au sud-ouest, il pleuvra parfois fortement. Et nous l'avons appris durant ce journal, trois départements du sud-ouest sont placés dès ce soir en vigilance orange pour des fortes pluies sous les orages. Selon le dernier bulletin de Météo France, il s'agit des départements de la Corrèze, du Lot et du Tarn-et-Garonne. Cette édition a été préparée avec l'aide de Caroline Benetto. C'était Jacques Hubert à la technique.